Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.
Soyez les bienvenus à ce numéro de Plaisir de lire. Nous poursuivons la série consacrée à l'auteur congolais Henri Lopez avec aujourd'hui sa nouvelle intitulée L'honnête homme. Retrouvez dans ce récit radiophonique dans le rôle de l'ingénieur Carlos Kouandé, du directeur général Ousmane Kanté, du directeur M. Guillaume Comé Jean-Claude, du préfet Junior Cardin, de la maire de Daounka Sonia Nzian, et dans le rôle du narrateur et personnage principal d'Aounka, Aoussi Potin. Peut-être bien que j'aurais dû me taire, ne pas faire mon rapport et laisser les chefs se débrouiller entre eux. Car plus j'y pense, plus j'ai l'impression d'avoir livré un combat gratuit. Que j'ai crié, argumenté, menacé ou pas, le résultat est le même. L'affaire est certainement classée aujourd'hui. Ce matin-là, le directeur général m'avait appelé à son bureau.
Daounka, j'ai un travail urgent à vous demander. Rendez-vous immédiatement à Maxiville. Allez faire une enquête sur la situation de l'emploi et des perspectives d'avenir pour les 10 prochaines années. Pour cela, voyez tous les documents. Si vous vous contentez d'interviewer les cadres européens, ils vous jetteront de la poudre aux yeux. Ils n'ont pas intérêt à ce que nous prenions nos dispositions pour les remplacer. Donc c'est un travail de fouille que je vous envoie.
J'étais heureux de cette mission. Maxiville est à 300 km de la capitale et je n'y avais jamais été. C'est une cité surgie de terre depuis qu'on y a trouvé du cuivre. Dans cette région où ne vivait jadis personne, la Somian, société minière anonyme, a installé une cité qui tranche avec le paysage environnant. Vous quittez brusquement la brousse chevelue et abordez une cité aux pelouses soigneusement tondues dans un parc aux allées bien tracées avec une vingtaine de bungalows disséminés en un désordre et tous plus coquets et confortables les uns que les autres. Le monde moderne au milieu du monde sauvage, tout a été prévu. Le cinéma, le club, la piscine dont l'eau est verte comme de la dioptase et transparente comme une vitre, en une région où pourtant sévit la bilharziose. Il y a même un restaurant et deux villas de passage pour les personnalités que la compagnie invite ou qui désirent jouir de la solitude des lieux. C'est ainsi que je fus logé mieux que je ne le suis habituellement dans ma maison. La villa qu'on m'affecta était petite, certes, mais d'un confort et d'une élégance réalisée par une série d'astuces au demeurant fort simples. L'ingénieur qui me fit faire le tour du propriétaire semblait, à mon gré, trop insister sur cet aspect des choses, comme pour souligner qu'avec rien, on peut tout faire et que c'est ce qu'ignorent les Africains. On me montra aussi toutes les réalisations sociales de la compagnie.
Car après tout, c'est pour ce pays que nous aimons que nous travaillons.
On avait construit pour les mineurs un quartier de cases à toit conique que c'est avait vite salopé. C'est pour cela qu'on leur donnait aujourd'hui, ainsi qu'à leurs femmes, des cours d'alphabétisation gratuits, qui étaient l'occasion de leur apprendre un certain nombre de règles de savoir-vivre. Et ma foi, c'est le pays qui en bénéficierait sans qu'il lui en coûte un sou. On avait aussi construit de charmantes salles de classe pour les enfants des ouvriers. Les maîtres étaient logés par la compagnie, les livres et fournitures pris en charge. Je ne crois pas non plus avoir vu dans tout le pays un hôpital aussi propre que l'infirmerie de Maxiville. Tous les 15 jours, systématiquement, une équipe de mineurs était soigneusement examinée, un peu comme les astronautes. On me dit même qu'on leur donnait une ration alimentaire spéciale. Le travail est si dur là-bas en bas qu'il faut les suralimenter. Mais tout cela n'est possible qu'à cause des mines de cuivre. La compagnie prétend qu'elle lui apporte chaque année 28 milliards de francs CFA. C'est deux fois le budget de notre État. Comme nous sommes actionnaires, on nous en donne 4 milliards. Le soir, j'allais manger au restaurant de la Somia. Là dînaient tous les cadres célibataires. Lorsque j'entrais, j'eus l'impression d'être dans un paquebot. Le néon, les serveurs en veste blanche et en pantalon noir, le bar garni de toutes les boissons que peut contenir une boîte de nuit à la page, les tables à nappes blanches et les lourds couverts en argent faisaient oublier que tout autour, les gens dormaient dans des huttes, sur des nattes à même le sol et sans autre lumière qu'une vieille lampe tempête. Celui qui m'avait accueilli dans l'après-midi m'invita à sa table. Il me présenta deux autres cadres qui mangeaient à la même table. Au début, nous n'eûmes pas grand-chose à nous dire.
Vous ne prenez pas de soupe ?
Non, merci.
Vous avez tort, c'est l'une des choses où notre cuisinier excelle. Le pain, s'il vous plaît ?
Merci.
Je vous en prie. Un peu de vin ?
C'est moi, je crois bien, qui finis par rompre la glace. Je ne sais plus très bien à partir de quoi. Un moment vint où nous évoquâmes nos études et la conversation se poursuivant, je découvris que l'un d'eux avait connu certains de mes condisciples de maths sup. L'entretien devint plus chaud. Mes interlocuteurs se montrèrent même familiers.
Eh bien, vous auriez dû dire plus tôt que vous avez fait vos études en France.
Ce fut une véritable bagarre verbale pour savoir qui m'offrirait le digestif. Ils me supplièrent d'aller avec eux au cinéma du camp. J'avais plutôt envie de me retirer. Le voyage en Land Rover m'avait abattu. Et je voulais, avant de m'endormir, profiter de ma solitude pour lire un roman que j'avais emporté dans mes bagages et que le mode de vie de la ville m'empêchait de lire.
Vous n'avez rien d'autre à faire. Venez donc.
Comment expliquer à ces jeunes ingénieurs, venus dans ce bled gagner ce qui leur permettrait de s'affirmer dans la haute société de chez eux, que lire Chinua Achebe est pour moi plus enivrant qu'une discussion avec des copains, qu'une nuit passée à danser ou un mauvais film américain. La conversation que nous avions eue avait suffi pour me montrer que c'était des gars sympathiques, sans doute des copains honnêtes, incontestablement compétents dans leur métier, mais décevants dès qu'on abordait des sujets autres que la chimie ou la physique. Je n'ai pas retenu le nom du film, ni non plus le sujet. Je sais seulement que les ingénieurs rirent à gorge déployée. Ils se dépolarisèrent, me dirent-ils ensuite. Ils ne remarquaient même pas ma gêne lorsque sur l'écran apparut un gros nègre qui ouvrait des yeux ronds parce qu'il voyait se déplacer ce qu'il avait cru être un mannequin. On lui faisait pousser les cris de fureur dans lesquels il jurait que c'était le diable, jusqu'à ce qu'un blanc, très calme, vint l'apaiser et lui montrer sa sottise.
Bonne nuit, c'était un bon film, n'est-ce pas ?
C'est le lendemain matin que commença véritablement ma mission. Il me fallut plus d'une heure dans la salle d'attente pour être reçu par le directeur. Quand je lui expliquai le but de ma visite, il me répondit que ce n'était pas possible. Pourtant, je suis envoyé ici par ordre du ministre et celui-ci a contacté le préfet qui n'y a vu aucune objection.
Au terme de la convention que nous avons signée avec votre gouvernement, et c'est pas possible.
Monsieur le directeur, je vous répète pourtant que je suis ici sur les ordres du ministre.
Quelle importance voulez-vous que puisse avoir pour moi les ordres du ministre au regard de la convention ? Les ministres passent, mon cher. Pas la convention. Et celle-ci garantit l'inviolabilité des dossiers auxquels vous faites allusion.
Cela avait été dit avec sourire, avec douceur même, voire un certain charme et une gentillesse telle que, normalement, la conversation aurait dû continuer. Mais il se trouve que pour moi, le fond compte plus que la manière. Monsieur le directeur, vous avez dit quelque chose de très grave. Je ne sais plus comment je suis sorti de ce bureau.
Vous dites que M. Vuillaume a bien prononcé ses paroles ?
Je le confirme, Monsieur le Préfet.
Attention à ce que vous dites. Voulez-vous bien répéter ? Notez avec précision, Madame Ngoka. Ah, mais c'est très grave. Ces Européens, ils se croient tout permis. Ils oublient que nous sommes indépendants.
Le préfet fit appeler d'urgence à son bureau M. Vuillaume, directeur de la Somia. J'avais connu le préfet à l'internat du lycée. Doté était plus âgé que moi. Lorsque j'étais en troisième, il préparait déjà son baccalauréat, mais contrairement aux grands de sa classe, il ne méprisait pas les bleus. Il était toujours souriant. Je souhaitais d'ailleurs devenir comme lui et garder cette simplicité qu'il avait alors à l'égard des petits quand je serais moi-même en terminale. Lorsque nous jouions au ballon, Doté ne s'énervait jamais, qu'il gagnât ou qu'il perdît. Si, en disputant une balle, il déséquilibrait son vis-à-vis, il revenait aussitôt son action terminée, s'excusait et s'inquiétait de savoir si ce dernier n'avait aucun mal. Quand il y avait des grèves contre le proviseur, il y participait toujours sans discussion. Mais ne criait pas « Gaston voleur, Gaston colonialiste !» Car il était absolument étranger à sa nature d'injurier, même quelqu'un qui lui avait fait du mal. Doté était un brillant élève. On disait que depuis la sixième, il avait toujours obtenu le prix d'excellence. Et pourtant, il avait coutume d'écouter avec patience et intérêt les bêtises que sortaient les cancres du genre de Falico ou Samba le Petit. C'était en vérité un bon camarade que Ndoté. J'avais eu l'occasion de le retrouver lorsque nous faisions nos études en France. Il était sur le point de rentrer diplômé vétérinaire. Je le revois encore animant chaque dimanche notre syndicat d'étudiants. Il fut l'un de ceux qui m'aidèrent le plus à me décomplexer et qui me firent comprendre la nécessité de l'indépendance, non pas de mon petit pays, mais de l'Afrique entière. Devant mon scepticisme, il me convainquit que ce n'était pas une utopie. Il prenait ses exemples dans l'histoire du monde et de l'Asie. Et c'est à lui que je dois d'avoir compris qu'on ne pouvait parler de politique sans étudier constamment et qu'on ne pouvait faire des études sans se poser des questions sur ce que devenait le monde et au bout du compte, faire de la politique. Je me souviens de sa phrase que j'ai souvent répétée à mon tour comme si je venais de la découvrir.
« Si tu ne fais pas la politique, tu la subiras. »
Réflexion apparemment anodine, mais qui avait eu un pouvoir persuasif, incommensurable chez l'adolescent que j'étais et à qui ma mère avait toujours dit
« Ne fais jamais de la politique, mon fils. Ce sont des histoires de filous et de bandits. »
Quand vint la loi cadre et l'indépendance, Doté m'avait clairement expliqué que c'était une farce et que notre président de la République n'était qu'un valet de l'impérialisme français. Et lorsqu'un an plus tard, ne le voyant plus à la cité universitaire, j'appris qu'il était rentré au pays. J'eus peur qu'il ne fût arrêté. Au bout de 6 mois, je lus dans un journal qu'il était nommé ambassadeur en Tunisie. Je n'ai jamais compris. Et voici que je le retrouvais préfet de la région. Nous évoquâmes quelques souvenirs et ne parlâmes plus de l'incident qui m'avait amené vers lui.
« D'où es-tu déjà ?»
me demanda-t-il.
« Ah, mais c'est une belle commune. J'y vais quelquefois et je l'aime beaucoup. D'ailleurs, ma femme voudrait que nous y achetons une maison. »
Incontestablement belle. Mais on nous abandonne. Les rues en plein centre de la ville sont défoncées. Aucune d'entre elles n'a été éclairée depuis 5 ans. Le collège est insuffisant.
Qui est maire ?
Zabouna.
Tiens, tiens, et avant lui ?
C'était le vieil Ekodo.
Ah, mais il est mort maintenant ?
Oui.
Ah, Mais c'est lui qui est responsable de la dégradation de la commune. Il ne faisait absolument rien.
Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la désagréable impression que le préfet n'avait critiqué l'ancien maire que parce qu'il était mort. Le téléphone sonna.
Ah oui, très bien. Faites-le entrer.
Monsieur Vuillaume entra. Il avait une chemise de nylon qu'il portait au-dessus du pantalon et ses pieds étaient nus dans des samaras. Je trouve toujours ridicule nos hautes personnalités qui, dans les cérémonies, portent costumes sombres, en trois pièces et cravate, quand même cet accoutrement les fait suer sous le soleil. Mais inversement, je trouve inacceptable qu'un étranger se présente à une de nos autorités étatiques en tenue de plage. Et je crois que si j'avais été préfet, j'aurais mis M. Vuillaume à la porte, lui demandant d'aller s'habiller.
Vous voyez, M. Vuillaume, je vous ai appelé pour procéder à une vérification. M. Daounka, ici présent, et avec qui vous avez eu déjà l'occasion de faire connaissance, je crois, est un envoyé des autorités centrales. Il a reçu mission de faire une enquête sur certains aspects de la gestion financière de la Somia. Or, il semblerait que vous vous opposez à lui montrer certains documents.
Monsieur le préfet, je crois avoir fait mon devoir. J'ai ouvert à la consultation de monsieur l'inspecteur général toutes les pièces dont j'avais la possibilité. Il semble que cela n'a pas pu le satisfaire. Il m'a réclamé un certain nombre de documents qui sont considérés comme confidentiels et qu'il n'est pas possible, hein, faut le dire, de livrer sans l'accord du président directeur général.
Mais c'est l'État qui vous le demande, monsieur Vuillaume.
Je n'en disconviens pas, monsieur le préfet. Mais l'État devrait saisir notre président directeur général qui me donnera le feu vert.
Doté hocha la tête d'un air compréhensif.
Mais auriez-vous dit à monsieur Daounka que vous n'aviez que faire de notre gouvernement?
Pas tout à fait, monsieur le préfet. Je crois plutôt avoir dit que j'étais désolé de ne pouvoir satisfaire le gouvernement, mais que c'était vis-à-vis de ma direction générale que j'avais des comptes à rendre.
Je ne pus m'empêcher de couper la parole pour dire que peu importait la forme élégante dans laquelle cela avait été dit. Le citoyen que j'étais était blessé de voir qu'un ordre de mon gouvernement n'impressionnait pas plus un étranger. La conversation devint finalement un dialogue entre Vuillaume et moi. Le ton aigre doux, dès le départ, frisait l'injure qui précède la bagarre. Pas plusieurs fois, quand mes yeux cherchaient un assentiment dans les yeux d'un doté, je me rendis compte qu'il était embêté et aurait souhaité disparaître derrière son bureau. Je ne sais pas comment il réussit à prendre la parole.
Finalement, ce n'est pas grave.
J'en demeurai interdit.
Ce n'est pas grave. Une incompréhension, quoi. Certes, M. Vuillaume aurait dû avoir un langage plus courtois. Mais vous connaissant, je sais que vous n'avez pas songé à mal contre notre gouvernement. Quant à vous, cher ami, je vous comprends parfaitement. Si notre ministre n'avait pas été pris de court et m'avait averti, j'aurais pu vous introduire à la Somia sans accroc.
Ndoté fit ainsi un prêche de 5 minutes où il nous renvoyait dos à dos. Il finit par se lever et accompagner M. Vuillaume à la porte de son bureau. Je l'entendis dire.
À ce soir.
À ce soir?
Oui, vous êtes bien invité chez Madame de Creatix. J'y serai, cher ami.
Et en lui ouvrant la porte, il lui posa la main sur l'épaule.
Que veux-tu, petit? On ne peut faire autrement. C'est un esprit colonialiste. Mais si on ne passe pas l'éponge, ces gens-là feront un scandale et demain, leur pays nous fera des représailles en nous diminuant l'aide. Ah, mon cher, ce n'est pas facile. Mais s'il recommence, là, je ne le louperai pas.
Plus j'y pense, moins j'ai envie de faire mon rapport. On le lira peut-être. On tapera du poing sur la table et puis on classera l'affaire. Vuillaume ne sera pas expulsé. La Somian continuera à faire fructifier ses affaires. Il y a en face de moi toute une machine sociale qu'il faudrait faire sauter. Je sais que cela viendra. Ce jour-là, je ne sais ce qu'on fera d'un homme charmant et honnête comme Ndoté.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Coissy.